bonjour à tous. Merci d'être venus pour cette journée Stoker. Donc, comme Adrien vous l'a dit, cette année, nous célébrons le centenaire de la mort de Bram Stoker, qui est mort en avril 1912. Donc, il a une vie très riche. Il a été au cœur d'énormément d'événements importants. Donc, évidemment, le peu de temps que j'ai, je ne pourrais pas rentrer dans le détail, mais je vais essayer de dresser un petit peu les grands traits de sa vie. Donc, on va commencer par le début. Stoker est né le 8 novembre 1847 à Clontarf. Clontarf, c'est un petit village dans la banlieue dublinoise, qui aujourd'hui fait partie intégrante de Dublin. Et d'ailleurs, pendant qu'on y est, si vous avez l'occasion d'aller à Dublin, vous pouvez retrouver la maison natale de Bram Stoker, qui se trouve au Crescent Marino. Et petit détail amusant, en janvier dernier, la maison était en vente sur Internet. Elle a été vendue 600 000 euros. Donc je vous propose de nous cotiser, on pourrait faire un musée. Ce serait plutôt sympa. Donc Stoker est né en 1847. Il est arrivé sur Terre au plus mauvais moment. C'est en pleine période de famine, ce qu'on a appelé la Grande Famine. Parce qu'à l'époque, l'alimentation de base des Irlandais, c'était la pomme de terre. Et il se trouve qu'en 1845, il y a eu une infestation de mildiou. Le mildiou, c'est évidemment un champignon qui s'attaque aux pommes de terre. Et toutes les récoltes ont été détruites. Donc, ce qui fait que des milliers de gens sont morts de faim. D'autres ont été obligés de partir en exil, que ce soit en France, en Angleterre et surtout aux États-Unis. Et deux ans après, donc l'année où Stoker est né, une deuxième infestation de mildiou, ce qui a été vraiment la catastrophe suprême, parce que vraiment les gens étaient exsangues. Et donc Stoker a supporté les séquelles de cette chose. Quand il est né, on lui donnait très peu de chances de survie. Les premières semaines de vie ont été vraiment précaires. On pensait vraiment qu'il passerait de vie à trépas. Et puis finalement, les choses se sont un petit peu arrangées. Sauf que pendant les 8 premières années de sa vie, il est resté cloué au lit. Il était trop malade pour aller à l'école comme tout le monde. Donc il avait un précepteur qui venait à domicile. Mais finalement, ça a été quelque part une bonne chose, parce que pendant ces 8 années, sa mère, pour le distraire, lui racontait des vieilles légendes irlandaises. Donc ça a été un petit peu le creuset de son imagination fantastique. Et elle lui a notamment raconté, alors ça c'était pas une légende, c'est que lorsqu'elle était enfant, elle vivait dans l'ouest de l'Irlande et elle a vécu l'épidémie de choléra qui avait ravagé l'Irlande à l'époque. Et elle a assisté à des scènes épouvantables. Il y avait tellement de morts que les fabricants de cercueils ne pouvaient plus assurer. Et donc il n'était pas rare qu'on mette dans un même cercueil 2 à 3 cadavres, ou parfois même qu'on mette carrément des moribonds pour aller plus vite. Donc ça a été vraiment des visions de cauchemar qu'elle a gardées dans son esprit et qu'elle lui a racontées par la suite. Et où on se rend compte que vraiment ça a été vraiment le creuset de son imagination, c'est que quelques 20-25 ans plus tard, quand Stoker a publié son premier livre de fiction, qui s'appelait « Au-delà du crépuscule », c'était un recueil de nouvelles, et il y a une nouvelle parmi toutes celles qui figurent dans le livre, qui s'appelle « Le géant invisible », et qui raconte l'arrivée dans un pays imaginaire d'un fantôme, et qui en fait est le fantôme de la peste. Et tout ce qui est décrit dans cette nouvelle est quasiment la transcription de ce que sa mère lui racontait quand il était enfant. Donc finalement, cette période d'inactivité, finalement, n'a pas été si inactive que ça, parce qu'elle a mis en marche des mécanismes qui ont fait que plus tard, Stoker est devenu un excellent auteur. Donc comme je vous le disais, pendant 8 ans, il n'a pratiquement pas quitté sa chambre. Quand il a été guéri, ça a coïncidé à l'époque où ses parents ont décidé de venir s'installer à Dublin. Alors bon, là pendant toutes les années d'enfance et d'adolescence, bon, il a eu une vie tout à fait banale. Et sa vie s'est transformée à partir de 1864. Il avait à l'époque 16-17 ans et son père l'a inscrit à Trinity College, qui était la grande université irlandaise, la seule d'ailleurs. Et cette année a marqué vraiment une rupture. C'est qu'à partir du moment où Stoker a fait ses études supérieures, ça a été une métamorphose sur tous les plans, c'est-à-dire sur le plan physique, parce que lui qui était un enfant chétif est devenu on l'a surnommé le géant roux, parce qu'il faisait plus d'1m90. Lui qui était timide, il s'est avéré être un débatteur de génie. Il faisait partie de la société philosophique de Trinity College, et tout le monde était en admiration devant ses discours. Et il est même devenu un champion sportif. Il s'est illustré dans de nombreuses disciplines. Donc ça a vraiment été la métamorphose. Alors, il y a une chose qui est importante dans la vie de Stoker, c'est le théâtre. Stoker a hérité de sa passion du théâtre de son père. Parce que son père travaillait à Dublin Castle. Dublin Castle, c'est l'équivalent du tribunal en France. Et il avait une seule passion, c'était le théâtre. Et quand Stoker, enfant, une fois guéri, est retourné à l'école, et lorsqu'il avait des bonnes notes, sa récompense, c'était de l'emmener au théâtre. Et il a eu cette passion toute sa vie. Et justement, cette passion a orienté par la suite toute sa vie. Donc, arrivé à Trinity College, donc il fait des études assez brillantes, et sa passion pour le théâtre, finalement, se déclenche véritablement un soir de 1867, donc Stoker a 20 ans. Il va au Royal Théâtre de Dublin assister à une représentation d'une troupe qui était de passage à Dublin, et dans laquelle il y avait un acteur en devenir qui s'appelait Henry Irving, qui était la star montante du théâtre londonien. Et ça a été une véritable révélation pour Stoker. Il a été complètement emballé par ce comédien. Et par la suite, chaque fois que Henry Irving venait à Dublin en tournée, Stoker ne ratait aucune représentation. Donc les années ont passé. Stoker est sorti donc de Trinity College avec son diplôme en poche. Il a trouvé un premier emploi, justement à Dublin Castle, où travaillait son père. Et on peut penser qu'à partir de là, sa vie aurait été linéaire. Il serait resté dans l'administration et il n'aurait pas vécu une vie formidable. Et c'est justement le théâtre qui va transformer tout ça. C'est qu'un soir, il retourne au théâtre pour voir une nouvelle pièce jouée par Henry Irving. Évidemment, il est à nouveau transporté par le spectacle et par le comédien, à tel point que le lendemain, il cherche dans la presse des articles pour voir ce qu'on a pensé de la prestation de l'acteur, et il est sidéré de constater qu'absolument aucun journal de Dublin n'a traité du sujet. C'est vraiment passé à la trappe. Donc il rentre dans une rage folle. Le lendemain matin, il se précipite dans l'un des plus grands journaux de Dublin, qui s'appelait le Dublin Mail. Il va voir le directeur et lui demande pourquoi le journal n'a pas chroniqué la présence d'Henry Irving. Et donc le directeur du journal lui explique que c'est uniquement pour des raisons financières, qu'il n'a pas assez d'argent pour payer un chroniqueur théâtral. Et Stoker a une idée de génie, un coup de bluff. Il lui dit, ben voilà, moi je vous propose de faire ça gratuitement, même anonymement, au moins je serai sûr que vous chroniquerez les pièces de théâtre qui sont jouées à Dublin. Donc le directeur du journal est un petit peu surpris, médusé, et en même temps amusé. Et lui, ben d'accord, on va faire un essai. Vous écrivez l'article sur la pièce que vous avez vue hier, vous me l'amenez demain. S'il est réussi, je le publie. S'il n'est pas réussi, ben on oublie. Donc Stoker, qui, entre parenthèses, avait pris sa journée spécialement pour aller se colté contre le directeur du journal, rentre chez lui, il écrit son article, il le ramène le lendemain au directeur du journal, qui s'appelait André Mamzel. Le directeur le lit et il trouve ça formidable. Donc du coup, Stoker devient chroniqueur de ce journal. Alors cette collaboration va durer 5 ans, ce qui fait que pendant 5 ans, il va devenir vraiment une des personnalités de Dublin qui vont compter. Parce qu'évidemment, au début, ces articles ne sont pas signés, mais comme ils sont excellents, petit à petit, on prend en compte son travail, et Stoker ainsi va rentrer dans la bonne société dublinoise. Il va rencontrer des gens importants, notamment la famille d'Oscar Wilde, la mère d'Oscar Wilde qui s'appelait Speranza, qui était une poétesse très connue à l'époque, organisait tous les mardis soirs des soirées chez elle, où toute la bonne société de Dublin se rencontrait. Et donc, c'est là que Stoker va à la fois rencontrer les Wilde, il va rencontrer Sheridan Le Fanu, enfin, il va rencontrer des gens très importants. Et donc, comme je vous disais, cette collaboration avec le Dublin Mail va durer plusieurs années, et chaque fois qu'Henry Irving vient à Dublin en tournée, il arrive qu'il vienne 2 à 3 fois par an, il est assuré d'avoir un article dithyrambique sur lui. Donc, au bout d'un certain temps, ça commence à l'intriguer. Évidemment, en tant qu'acteur, il est ravi qu'on dise du bien de lui. Mais ça l'intrigue, il veut savoir qui est ce journaliste qui vraiment est si entiché de lui, et il demande à le rencontrer. Donc la rencontre a lieu un soir après le spectacle, dans sa loge, et c'est une amitié immédiate qui naît entre les deux hommes et qui va durer une trentaine d'années. Alors évidemment, au début, c'est une amitié épistolaire, ils se voient uniquement pendant les jours où Irving vient à Dublin. Mais c'est une amitié vraiment très forte et qui s'enrichit au fil des années. Et il va se passer un événement assez extraordinaire, c'est que un jour, Henry Irving vient à Dublin et lui dit, voilà, je viens d'acheter un théâtre à Londres qui s'appelle le Lyceum Theatre. Le Lyceum Theatre existe toujours à Londres, vous y allez, c'est un des plus beaux théâtres de Londres. Il a été complètement restauré il y a une dizaine d'années. Et c'est vraiment un endroit formidable. Et donc, à l'époque, Irving a acheté ce théâtre. Mais le problème qui se pose pour lui, c'est que soit il doit en être le véritable directeur et laisser tomber son métier de comédien, soit il reste comédien, mais il ne peut pas s'occuper correctement du théâtre. Donc il fait la proposition suivante à Stoker. Il lui dit, moi j'ai besoin d'un homme de confiance. Est-ce que tu veux prendre la direction du Lyceum Théâtre à Londres. Alors évidemment, c'est une proposition qui ne se refuse pas. Néanmoins, Stoker hésite un petit peu parce que c'est vrai que ça veut dire des tas de choses. Ça veut dire une nouvelle vie, ça veut dire quitter Dublin, quitter son travail, quitter sa famille, ses amis. Et puis quitter son travail, c'est un peu hasardeux parce que là, il a un travail sûr puisqu'il fait partie de l'administration dublinoise. Mais se lancer en plus à Londres dans une aventure à l'aveuglette, c'est quand même risqué. Mais bon, il part du principe que l'occasion ne se représentera peut-être pas deux fois, donc il accepte. Et donc, il est prévu que Stoker prenne les rênes du théâtre, et on est en 1878. Henry Irving lui fait la proposition pendant l'été, et il veut que Stoker arrive à Dublin, à Londres, pardon, avant la fin de l'année, au plus tard au mois de décembre, parce qu'il veut absolument faire la première production sous le label Henry Irving en début d'année, c'est-à-dire au mois de janvier. Donc ça laisse vraiment très très peu de temps. Donc Stoker accepte la proposition et, curiosité, surprise, quand il arrive à Dublin, à Londres décidément, il vient tout juste de se marier avec une jeune femme qui s'appelle Florence Balcombe, qui curieusement avait été courtisée par Oscar Wilde parce qu'elle aussi habitait juste à côté de Wilde et de Stoker, parce qu'ils étaient dans le même quartier. Alors c'est très étonnant parce qu'on ne connaît aucune aventure amoureuse à Stoker jusqu'à cette date-là. Et c'est très surprenant que de but en blanc, juste au moment où il doit partir pour Londres, il épouse Florence. D'autant qu'il ne prend même pas le temps de partir en voyage de noces, parce qu'il se marie le 20 décembre, et le 24, il est à Londres. Et là, il n'est pas question de batifoler, il démarre son travail vraiment sur les chapeaux de roue, parce qu'il faut absolument monter une grosse production qui va coûter beaucoup d'argent, donc c'est déjà risqué pour une première production, mais en même temps, il n'a pas le choix, c'est ça ou c'est l'échec annoncé s'il laisse tomber. Donc Stoker se consacre complètement, complètement à cette nouvelle activité. Et le premier spectacle est un succès phénoménal qui fait rentrer énormément d'argent dans les caisses du Lyceum. Et ça va marquer le début d'une collaboration extraordinaire, parce que je vous disais tout à l'heure, ça va durer une trentaine d'années. Et le Lyceum va devenir un des plus grands théâtres de Londres. Et chaque production va être vraiment un événement. Parce que Henry Irving veut mettre la barre toujours un peu plus haute à chaque production. Donc ça veut dire beaucoup d'argent, beaucoup d'efforts. Et Stoker a une lourde charge parce qu'il doit s'occuper de l'administration du théâtre. Il doit choisir aussi les comédiens qui font partie de la troupe. Il s'occupe des décors, il s'occupe de la salle, des fauteuils, de la couleur des fauteuils, des tentures. Il est partout, partout. En plus, il s'occupe de préparer la première tournée américaine du Lyceum, qui va être une tournée assez éprouvante pour les comédiens. Et en même temps, ça va être un événement aux États-Unis, parce que pour la première fois, une troupe de théâtre européenne va venir aux États-Unis, mais avec tout son staff, c'est-à-dire pas uniquement les comédiens, mais elle vient avec les comédiens, avec les techniciens, avec les décors, évidemment avec les costumes. Et ça, c'est une entreprise colossale, et les Américains n'avaient jamais vu ça avant ça. Donc voilà, Stoker est parti dans une nouvelle vie, et c'est vraiment le démarrage de quelque chose de complètement différent de ce qu'il pouvait espérer en restant à Dublin. Alors, Stoker était évidemment un écrivain. Jusqu'à présent, il n'a pas eu beaucoup d'occasion de publier beaucoup de choses. Lorsqu'il était à Dublin, il publiait quelques nouvelles dans la presse, mais bon, c'était plutôt intimiste comme réaction, si vous voulez. Il n'y avait pas beaucoup de retentissement, parce que c'était la mode. Il y avait beaucoup de romans feuilletons qui étaient publiés, mais ça ne sortait pas forcément en livre. Et Stoker, donc, publie le premier livre dont je vous parlais en 1882, c'est Au-delà du crépuscule, et c'est un livre qu'il publie et qu'il dédie à son fils Noël, qui est né en 1879, donc l'année suivant son arrivée à Londres. Alors il y a une chose qui est intéressante à propos du Lyceum de théâtre, c'est que Henry Irving a voulu remettre au bout du jour une habitude qui existait depuis longtemps dans ce théâtre. C'est un club qui s'appelle le Club des Beefsteaks, qu'Adrien connaît bien, et c'était une sorte de club de pensée qui existait. Il y avait une salle qui était réservée dans les salons du théâtre, et les gens s'y retrouvaient le soir après le spectacle. Enfin, quand je dis les gens, c'était les comédiens et les célébrités qui étaient de passage à Londres et qui venaient voir le spectacle. Et c'était donc un club de rencontre où il y avait beaucoup de personnalités qui vont avoir leur importance finalement pour Stoker et pour l'écriture de Dracula. Alors, notamment parmi les gens qui fréquentaient le Beefsteak Club, il y a deux personnes importantes qui ont influencé Stoker. Il y a un personnage très trouble qui s'appelle Richard Burton, qui n'est pas le mari d'Elizabeth Taylor, à ne pas confondre. C'était un grand voyageur, un aventurier. Alors, il avait une réputation assez sulfureuse. On disait que c'était un espion. On disait qu'il était homosexuel, qu'il était drogué. On a même dit qu'il était cannibale, que pendant ses expéditions à l'étranger, il avait mangé de la chair humaine. Et en fait, ce type était un fin lettré. Il a été le premier à traduire les Mille et une nuits en anglais, à traduire le Kama Sutra. Il a fait également un recueil de nouvelles de vampires. Et ce type avait une apparence très, très impressionnante. C'était un grand costaud, qui avait des cheveux un peu ébouriffés, et qui avait de grandes dents. Et Barbara Benford, qui est un des biographes américains de Stoker, dit que c'est la première figure qui a inspiré Stoker pour le personnage de Dracula. Et il y a un autre personnage aussi qui a eu son importance, qui s'appelle Arminius Van Bury, que Stoker a également rencontré dans ce fameux Beefsteak Club. Et Arminius Van Bury était un professeur de langue orientale, hongrois, très cultivé. Et il a donc été reçu. Stoker a assisté à une conférence que Arminius Van Bury donnait à Londres. Et ils se sont revus dans les salons du Beefsteak Club. Et c'est un peu comme ça que Stoker a eu quelques renseignements sur des contes et légendes des pays de l'Est qui étaient un petit peu étranges, qui sortaient de l'ordinaire et qui mettait en scène des créatures comme les vampires. Alors, il y a eu un autre événement qui s'est produit en Angleterre et qui lui aussi a eu son importance plus ou moins indirectement sur l'écriture de Dracula. C'est en 1888, c'est l'affaire Jack l'Éventreur. Pendant plusieurs semaines, comme vous le savez, Jack l'Éventreur a assassiné, je crois, 5 prostituées de façon assez terrifiante. Et ça a vraiment complètement chamboulé les Londoniens, enfin les Anglais en général, mais les Londoniens en particulier. Et au cours de ce fait divers, on retrouve toute l'ambiance finalement qui fera le sel de Dracula. C'est qu'il y a des victimes qui sont tuées en pleine nuit par une entité surgie de nulle part, dont on ne sait pas d'où elle vient, qui elle est, et qui disparaît. Et c'est exactement le processus de Dracula dans le roman. Et alors, il y a beaucoup d'auteurs qui se sont inspirés de ça, mais je pense que notamment Stoker a très certainement été marqué par ça. Donc, on en arrive à une période où Stoker commence plus ou moins à s'intéresser aux vampires. Pendant les années 1890, il va faire deux voyages qui, eux aussi, vont avoir leur importance dans l'écriture de Dracula. Il va découvrir une petite ville, il va partir en vacances avec Florence et son fils Noël. Il va partir en vacances dans le Yorkshire, dans une petite ville qui s'appelle Whitby, qui est une ville absolument magnifique. Alors, je fais une petite parenthèse. Ce soir, avant le film de Coppola, vous allez voir un documentaire qui a été réalisé par Jean-Michel Ropert, qui s'appelle Whitby, la ville de Dracula. Et c'est justement cette ville qui est intéressante parce que Stoker y a situé plusieurs chapitres de Dracula. Et, quelque part, en remerciement, la ville, depuis quelques années, a constitué tout son tourisme autour de, à la fois du personnage de Dracula et du personnage de Bram Stoker. Et donc, c'est très, quand on a lu le roman, c'est très intéressant et très passionnant de retrouver vraiment dans le réel tous les lieux qui sont décrits, parce qu'il a vraiment décrit ce qu'on trouve encore aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est un des premiers éléments de Dracula. Ce qu'il faut préciser aussi, c'est que Stoker était très curieux et il travaillait beaucoup en bibliothèque. Et justement, à l'époque où il a été à Whitby, il est allé à la bibliothèque de la ville, il a cherché dans les archives pour voir s'il y avait des choses intéressantes à retenir, et il est tombé sur un fait divers très étonnant, très intrigant. C'est que quelques années auparavant, un bateau russe s'est échoué sur la plage de Whitby, et ce bateau s'appelait le Dmitri, et il était vide de tout équipage, il n'y avait absolument personne à bord. Et c'est un élément qui l'a beaucoup marqué, il s'est dit « tiens, c'est vraiment quelque chose d'intéressant ». Et justement, on retrouve ça dans Dracula. Quand Dracula arrive en Angleterre, il arrive à Whitby, dans un bateau qui est complètement décimé, il n'y a plus personne à bord à part lui. Et donc, l'origine de cette scène vient de ce fait divers que Stoker a trouvé dans les archives de Whitby. Et puis à la même époque, il allait aussi en vacances dans un petit village en Écosse qui s'appelait Cruden Bay. Et alors aujourd'hui, Cruden Bay, c'est un village qui est connu parce que c'est, je crois, un des plus beaux terrains de golf d'Écosse, donc si ça vous intéresse. Et donc, il allait passer régulièrement ses vacances là-bas. Et il y avait un noble qui était propriétaire d'un château. Ce château s'appelait Slam Castle. Et Stoker, en fait, semble s'en être inspiré pour décrire le château de Dracula qui est décrit dans le roman. Donc voilà, ça c'est quelques petits points comme ça pour vous situer un petit peu ce qui a amené Stoker, qui a amené Stoker à écrire Dracula. Donc il a mis à peu près 8 ans pour écrire le roman. C'est le seul livre pour lequel il a autant travaillé, mais c'est vrai qu'il a vraiment pris des notes partout. Enfin, il était vraiment très très minutieux. Le roman est sorti en 1897. Il a eu un très bon accueil de la presse et du public. Bon, évidemment, ce n'est pas le best-seller qu'on connaît aujourd'hui, mais pour un livre de l'époque, c'est un de ses livres les plus vendus. Et curieusement, c'est à partir de la publication de Dracula que le chemin de Stoker commence à décliner. Un an plus tard, donc en 1898, il y a eu une catastrophe, on peut appeler ça comme ça, c'est que les entrepôts où étaient justement conservés tous les décors et tous les costumes de tous les spectacles du Lyceum Théâtre ont brûlé. Et le drame, c'est que c'était un mois avant le départ de la troupe pour une nouvelle tournée aux États-Unis. Donc au dernier moment, Stoker a été obligé d'annuler la tournée puisqu'il n'y avait plus de décor, il n'y avait plus rien. Donc ça veut dire un gros trou dans la caisse du Lyceum. Et pour couronner le tout, Henry Irving, sans lui en parler, avait réduit la police d'assurance du théâtre. Et du coup, ça a été une véritable catastrophe financière. Et à partir de ce moment-là, l'existence du Lyceum a été compromise puisqu'ils se sont dirigés de plus en plus vers la faillite. Et petit à petit, on se rend compte que vraiment, c'est le déclin à tous les niveaux. L'année après l'incendie, la mort de la mère de Stoker survient. Donc Stoker, évidemment, est très perturbé par ça. Henry Irving tombe malade. Et puis, ce qu'il avait fait aussi dans le dos de Stoker, c'est qu'il avait vendu ses parts du Lyceum à un consortium financier qui petit à petit a fait faillite. Donc du coup, le théâtre a fait faillite par ricochet et ils ont été obligés de fermer. Et là, alors ça, ça a été vraiment une période très, très noire pour Stoker parce que, évidemment, c'était son activité principale, même s'il continuait à écrire en parallèle, mais c'était quand même ce qui faisait son gagne-pain principal. Et du coup, du jour au lendemain, il n'avait plus du tout de rentrée d'argent. En plus, Henry Irving, très très marqué par la fin du Lyceum et par la fin de sa carrière finalement, parce que l'un n'allait pas sans l'autre, Henry Irving est tombé gravement malade et évidemment il est mort. Et Stoker a été doublement choqué à la fois par la fermeture du Lyceum et par la mort d'Henry Irving, à tel point qu'il a fait une attaque cérébrale et il s'est retrouvé cloué au lit pendant plusieurs semaines. Alors ce qui est très étrange, c'est que justement sa fin de vie ressemble à son début de vie. C'est que pendant les dernières semaines de son existence, il s'est retrouvé exactement dans la même situation qu'il avait commencé sa vie, c'est-à-dire cloué au lit. Mais malgré tout, il n'a pas renoncé à écrire parce que, comme je vous le disais, n'ayant plus ses rentrées régulières au théâtre, il fallait bien gagner un peu d'argent. Donc à partir de ce moment-là, il a écrit de plus en plus. Et c'est vrai que les derniers livres qu'il a publiés, je dirais, sont les moins bons, parce que forcément, il n'avait plus les moyens de prendre autant de temps pour travailler ses textes qu'il l'avait fait pour Dracula. Donc, il était payé à la copie, donc les livres qu'il publiait étaient de moins bonne qualité. Le meilleur exemple, c'est le tout dernier livre qu'il a publié, qui s'appelle Le repère du ver blanc, qui au départ était un sujet plutôt intéressant. Mais quand on lit le livre, on se rend bien compte qu'il est bâclé, enfin, il n'a pas apporté le même souci. Mais néanmoins, Stoker a publié quelques autres livres quand même intéressants. Je vous en recommande un qui n'est pas très très connu, qui s'appelle La Dame au Linceul, qu'il a publié, je crois, en 1904 ou 5. La Dame au Linceul, c'est un petit peu le pendant féminin de Dracula. Il a réitéré, enfin du moins il a essayé de réitérer l'essai qu'il avait fait avec Dracula, c'est-à-dire qu'il prend un personnage qui est un vampire, ça se passe également dans les Carpates, et c'est écrit de la même façon que Dracula, parce que l'un des intérêts de Dracula, c'est d'avoir été conçu, non pas d'une façon linéaire comme un simple roman, mais si vous l'avez lu, vous le savez, chaque protagoniste de l'histoire écrit son propre journal, et c'est au travers de ce journal qu'on apprend ce qui se passe, ce que fait Dracula. Et donc, il a utilisé le même principe avec La Dame au Linceul, et je trouve que c'est un de ses meilleurs livres. La seule petite différence, c'est que Dracula est un vrai roman fantastique, avec une résolution fantastique, alors que La Dame au Linceul, c'est du faux fantastique, il y a une résolution à la fin complètement normale, qui peut décevoir les amateurs de fantastique, mais en même temps, je pense que c'est une belle réussite. Et c'est un livre qui est très peu connu, il n'a jamais été adapté au cinéma. On a mis très longtemps à le traduire en France. Donc voilà, si vous avez une petite curiosité, je vous le recommande. Donc, comme je vous disais, c'est le déclin, et Stoker va donc mourir le 20 avril 1912. Alors, il n'a vraiment pas de chance jusqu'au bout, parce que lui, quand même, qui était une personnalité en vue de tout Londres, qui était à la fois un homme de théâtre, mais aussi qui était devenu un auteur connu grâce notamment à Dracula, lorsqu'il est mort, sa mort est passée complètement inaperçue, parce que 5 jours avant, il y a eu la fameuse catastrophe du Titanic, qui a fait la une de tous les journaux du monde. Et quand lui est mort, on a trouvé des petits entrefilets à l'intérieur des journaux, des quotidiens. Il n'a jamais eu droit aux premières pages, ce qui est un peu dommage, parce que je pense qu'il le méritait largement. Et donc Stoker ne connaîtra jamais finalement la destinée de sa créature Dracula, qui non seulement est un des plus grands romans du 19e, mais qui va devenir, je ne peux pas dire mais en tout cas l'un des plus importants héros de la littérature et du cinéma. ce qui fait que 100 ans plus tard, on parle encore de lui. Donc voilà, donc l'existence de Stoker est une existence à part, particulière, que je trouve palpitante. Et justement, en ce centenaire de sa mort, il y a plusieurs ouvrages qui sont sortis récemment. On vient de retrouver les journaux intimes de Bram Stoker, qui viennent d'être publiés, je crois, chez J'ai lu. Alors en fait, c'est le journal intime qu'il écrivait quand il habitait encore à Dublin. Alors très honnêtement, c'est pas très très passionnant, c'est même un peu décevant pour un stockerien, parce qu'on n'y apprend rien de particulier, sauf qu'il était très croyant, il a écrit beaucoup de poèmes religieux, donc c'est pas palpitant. Par contre, ce que je peux vous signaler, c'est qu'il y a une nouvelle traduction de Dracula qui vient de sortir, qui a été faite par Jacques Sirgent, parce que les précédentes traductions n'étaient pas complètement intégrales, donc lui a voulu retravailler la traduction dans ce sens-là. Donc voilà, donc c'est une façon de rendre hommage à Bram Stoker qui nous a réunis aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Voilà, si vous avez des petites questions, je suis à votre disposition. Et vous j'ai pas trouvé ça génial, j'ai pas trouvé ça catastrophique. C'est moyen, c'est un bouquin de gare, quoi. Ça se lit bien, mais évidemment, c'est loin d'avoir le génie de l'original. Mais ça aurait pu être pire. Je m'attendais au pire, honnêtement. Donc, l'honneur est sauf. Bah écoutez, je crois que la meilleure façon de conclure, c'est de vous recommander de relire Dracula, parce qu'on ne s'en lasse jamais. Voilà, bah je vous remercie.